Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Marianne Paquette au micro qui est là pour les 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Aujourd'hui, bien, le rôle de l'alimentation sur notre santé physique, c'est bien connu. Hein? On mange bien, on mange mieux pour une meilleure santé cardiovasculaire, pour prévenir le surplus de poids, pour prévenir le diabète. Ce que l'on sait moins, c'est que le rôle de l'alimentation sur la santé mentale pourrait être aussi fort que le lien sur la santé physique. Il y a une étude plutôt récente de Sun Project qui a suivi plus de 15 000 participants sur 8 ans et demi et ça a démontré que l'adhérence à trois types de diètes diminue de 16 à 40 les risques de dépression. Là, vous voulez savoir c'est quoi ces types de diètes-là? Ben, c'est simple, hein? C'est ce que l'on entend souvent. Plus de fruits, plus de céréales, plus de noix, des légumes et on s'éloigne du sel et du sucre concentré. Il y a un livre qui est paru récemment chez Modus Vivendi, Super Aliments Bonheur. Ça a été écrit par Marie Charron, nutritionniste diététiste et elle sera là en deuxième partie d'émission pour nous en parler davantage, donc des impacts de notre alimentation sur la santé mentale. Et puis, ben, on parle de grands-parents aujourd'hui, hein? Les grands-parents qui, de nos jours, sont souvent jeunes, actifs, informés, impliqués. Les grands-parents d'aujourd'hui, force est de constater qu'ils n'ont rien à voir avec ceux des générations précédentes. Ils sont plus présents plus longtemps parce que, bon, plus en santé. Leur rôle est toujours aussi essentiel au sein d'une famille, mais c'est un rôle qui s'est complexifié aussi, même si, lorsque l'on parle à des grands-parents, ce qui revient toujours, c'est que c'est probablement le plus beau rôle de leur vie. Quels sont les rôles des grands-parents? Aujourd'hui, j'en parle à l'instant avec la psychologue Nathalie Parent. Nathalie Parent, bonjour!
Bonjour Marianne.
Vous êtes psychologue, je l'ai dit, mais également auteur d'un livre pour grands-parents seulement, un titre quand même assez révélateur en ce qui a trait à notre sujet d'aujourd'hui, Nathalie. Mm-hmm. Les familles ont beaucoup évolué dans les dernières années, donc inévitablement le rôle des grands-parents également. Qu'est-ce qui différencie principalement le rôle des grands-parents d'aujourd'hui de ceux des générations précédentes?
En fait, c'est beaucoup le fait que les grands-parents sont plus présents qu'ils étaient, aussi dans le sens qu'il y a beaucoup plus de grands-parents pour le nombre de petits-enfants, contrairement à il y a quelques générations où c'était plutôt l'inverse. Il y avait à peu près un, deux, trois grands-parents vivants pour plusieurs petits-enfants. Donc, l'investissement qu'ils ont actuellement, les grands-parents auprès des petits-enfants, il est tout autre. Hein? Ils n'en ont pas 30 à aimer, oui. Ils en ont trois qu'ils doivent partager avec d'autres grands-parents, puis avec d'autres grands-parents aussi de familles recomposées. Donc, c'est beaucoup plus... beaucoup plus complexe en ce sens-là au niveau des rencontres, des oui. activités, des parties familiales aussi.
Est-ce que les grands-parents ont un rôle important à jouer justement au sein de la famille recomposée qui est de plus en plus présente en 2015?
Oui, définitivement, les grands-parents... S'ils sont capables de se tenir à distance des conflits qu'apporte une rupture, une séparation, parce que c'est rare quand même que les séparations se font avec dans le bonheur et l'harmonie. Donc, il y a souvent quand même quelques conflits qui se créent. Puis quand les grands-parents sont capables de se tenir en dehors de ces conflits-là, de rester neutres, ils peuvent apporter vraiment un grand support pour leurs enfants, pour leurs enfants qui se séparent, mais aussi pour les petits-enfants. Mm-hmm. Juste être à l'écoute de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent, de comment ils vivent ça, eux, la séparation, ça apporte énormément. Puis c'est sûr qu'ils peuvent apporter aussi du support là, au niveau de l'aide quand il y a une famille monoparentale, ne serait-ce que d'aller garder un temps, une heure, le temps que le parent revienne ou des fois quand le parent a besoin d'une activité, par exemple, et puis que l'autre parent n'est pas là, bien, le grand-parent, s'il peut apporter ça, ce support-là, mm-hmm. d'être présent, c'est une grande aide.
J'imagine aussi que le grand-parent, s'il est capable d'être dans cet esprit d'ouverture, peut favoriser le passage de nouveaux petits-enfants dans sa famille, c'est-à-dire les enfants du nouveau conjoint-conjointe de son enfant.
Oui. Définitivement. Puis souvent, par contre, ce que j'ai entendu et ce que j'entends encore, c'est les grands-parents se sentent mal de pas aimer autant ou de façon pareille les oui. petits-enfants et les nouveaux petits-enfants, mais en même temps, le lien se crée avec le temps. C'est normal et c'est sain à la limite de pas être pareil avec chacun des enfants.
Mm-hmm. Mm. Nathalie Parent, est-ce que le grand-parent a un rôle à jouer dans le développement de son petit enfant?
Surtout au niveau de l'estime de soi, je vous dirais. Souvent, les grands-parents vont aimer inconditionnellement le mm-hmm. petit enfant. Hein? Il va voir tout de suite les bons coups que le petit fait. Donc, il n'y a pas nécessairement d'attente. Comme quand on est parent, on a des attentes quand même. Souvent, quand même, on veut que les enfants fassent bien. Hein? On a un rôle éducatif, alors que les grands-parents sont libérés, eux, de ça. Et ils sont là souvent comme admiratifs auprès des petits-enfants. Et ça, ce regard-là admiratif auprès d'eux, c'est très structurant pour l'enfant.
Mm-hmm. Mm. Oui, parce qu'il est vrai que le grand-parent est souvent moins exigeant, que ce soit dans les apprentissages ou dans les comportements. Ça peut apaiser l'enfant, ça, et lui donner une petite pause aussi, de l'éloigner de la performance, du bon comportement à tout prix.
Définitivement. Il y a un exemple que j'aime bien rapporter à ça, c'est le jeune qui joue au hockey et qu'il termine sa partie de hockey, puis il s'étreint un peu les pieds. Puis le père, il l'accueille, mais de façon, comment ça se fait que t'as pas fait ça? T'aurais pu faire telle affaire. Et puis là, il critique. Puis là, tu vois le petit garçon que les épaules lui tombent. Et le grand-père qui regarde ça un peu en témoin, puis qui attend que le père termine ses recommandations. Et il arrive par en arrière et dit à son petit-fils, « C'est-tu correct? Es-tu prêt là, pour une patate frite? Hein? » Donc, c'est un peu ça, le rôle du grand-parent.
Les priorités changent avec l'âge. Hein?
Oui.
Aussi souvent, le grand-parent est présent auprès de son petit-enfant, mais peut-être moins stressé, plus disponible aussi que le parent. Mm-hmm. En ce sens, peut-il avoir un rôle à jouer dans l'éducation de son petit-enfant?
Au niveau de l'éducation, c'est sûr que lui, le grand-parent, va davantage transmettre ses passions, mm-hmm. Ses intérêts. Il ne sera pas, lui, dans justement exiger quelque chose au niveau de l'éducation. Par contre, je pense que les générations qui ont précédé étaient davantage axées beaucoup plus sur la politesse, hein, faire place aux autres. Ça, je pense que les grands-parents peuvent apporter grandement au niveau des petits-enfants dans l'apprentissage à ce niveau-là.
Oui. J'imagine que le grand-parent peut servir aussi de passeur de valeurs familiales, de mémoire aussi, de souvenirs.
Définitivement. Puis ça rassure et ça répond à un besoin chez l'enfant. Hein? L'enfant a besoin de savoir qu'il appartient à une lignée qui vient de ses parents. Puis quand les grands-parents rapportent des anecdotes, par exemple, de son enfant quand il était petit, puis qui maintenant il est devenu parent, ça fait toujours sourire les petits-enfants, hein? Puis c'est comme si ça permet à l'enfant d'imaginer que son père ou sa mère a déjà été petit,
ouais.
et qu'il a déjà fait des choses un peu comme lui. C'est comme si ça vient y enlever un peu de pression à l'enfant pour dire que c'est vrai que mon père, ma mère n'ont pas été parfaits, il a fait des mauvais tours lui aussi, donc moi aussi je peux être un enfant. Ça vient enlever un peu de culpabilité, je dirais.
Et j'imagine, favoriser ou consolider le lien parent-enfant à ce moment-là.
Oui.
Nathalie, Nathalie Parent, vous êtes psychologue. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a, je dirais, conflit au sein même des valeurs, c'est-à-dire en ce qui a trait peut-être à l'alimentation ou aux cadeaux, si on l'entend souvent, comment on peut les éviter ou pouvoir aborder le sujet?
Bien, évidemment, quand on a un bon lien avec les grands-parents, quand les parents et les grands-parents ont un bon lien ensemble, l'idéal, c'est d'en discuter, hein, d'en parler, de parler de c'est quoi nos attentes comme parents, c'est quoi les attentes des grands-parents aussi, qu'est-ce qu'eux aimeraient. Donc, quand on est capable d'ouvrir la discussion là-dessus puis de constater les différences, déjà, il y a comme, comment je dirais, un conflit qui est moins présent. Juste le fait d'ouvrir sur la discussion. Mais c'est certain que en dernier recours, au niveau de l'alimentation, bon, quand les petits-enfants sont chez les parents, c'est eux qui transmettent les valeurs. Et il faut pas oublier aussi que les petits-enfants, ils savent faire la différence. Que avec grand-maman, c'est comme ça que ça se passe, mais pas avec maman. Et que quand je suis chez grand-papa, grand-maman, j'ai des droits que j'ai pas chez papa-maman.
Oui. Les enfants comprennent rapidement, je dirais, les changements d'endroit qui vont avec les changements de consignes parce qu'ils sont habitués d'aller à la garderie, à l'école. S'ils viennent d'une famille recomposée, ben, chez papa, déjà chez maman, ça se passe pas de la même façon. Donc, on peut leur faire confiance en ce sens.
Oui, définitivement. Ils vont l'apprendre de toute façon que c'est différent. Puis, c'est pas mauvais de permettre que chez les grands-parents, ce soit différent, hein, puis que ce soit plus léger ou moins sévère ou encore dans d'autres familles, c'est le contraire. Hein? Il y a des grands-parents qui sont plus sévères sur la discipline à la table, on reste assis. C'est comme ça que ça se passe chez les grands-parents. Puis quand on est parent puis qu'on fait garder les enfants chez les grands-parents, puis qu'il y a une règle ou une valeur à laquelle on tient, bien, si on est capable de l'expliquer le pourquoi, qu'est-ce qui fait que c'est important pour nous, cette valeur-là, souvent, ça passe mieux.
Nathalie Parent, lors du passage de l'adolescence, on fait comment pour éloigner le fossé des générations entre les grands-parents et les adolescents?
Ça, c'est vraiment une question difficile. Pas la question en tant que telle, mais c'est une question qui est souvent posée. Les grands-parents trouvent ça très difficile parce que c'est vrai qu'il y a une distance qui se crée et je pense qu'elle est nécessaire, cette distance-là. Pas qu'on doit, comme grands-parents, rester à distance. Non, je pense que les grands-parents doivent faire l'effort d'aller questionner, de s'informer, de continuer à s'intéresser sur ce que vivent les adolescents, son adolescent. Mais en même temps, il faut retenir que l'adolescent a besoin de se distancier de ça parce que ça, être adolescent, il y a plein d'angoisses qui se vivent, dont l'angoisse du vieillissement et de la mort.
Ouais.
Et donc, c'est souvent là que ça joue, que ça accroche.
J'imagine que le grand-parent, dans ce genre de situation-là, peut devenir également un confident pour son adolescent. L'adolescent ne se confierait pas nécessairement à son parent, mais avec grand-papa, grand-maman, c'est plus facile. En cas de doute ou d'inquiétude, est-ce que le grand-parent doit garder la confidentialité ou exprimer ses craintes aux parents?
C'est sûr que quand il y a un doute, quand il y a quelque chose qui... mettons que le grand-parent a un doute sur ce qui pourrait arriver à l'adolescent, bien à ce moment-là, peut-être de jouer franc-jeu avec l'adolescent et dire, écoute, ce que tu me dis, c'est vraiment important, puis je pense que c'est vraiment important que ton père ou ta mère le sache. Est-ce que tu veux que moi, je lui en parle ou toi, veux-tu lui en parler? Mais je tiens à ce qu'un des deux le sache.
Oui. Donc, encore une fois, d'encourager la communication entre l'enfant et son parent.
Oui, et le lien de confiance, hein, parce que s'il s'est confié aux grands-parents, c'est parce qu'il y a confiance. Alors, on ne veut pas briser ça en allant raconter sans lui dire, là, en passant par la bande. Hein. Oui, il faut créer l'ouverture.
Nathalie, on en a parlé un tout petit peu, il faut éviter l'ingérence, hein? C'est-à-dire que le grand-parent n'a pas nécessairement à se mêler de l'éducation, de l'alimentation, s'il n'est pas d'accord avec l'éducation que ses enfants donnent aux petits-enfants. Mais est-ce qu'il y a certaines situations où le grand-parent peut s'en mêler, qu'il est en droit de le faire?
C'est sûr que, comme tout citoyen, quand le développement de l'enfant est en danger, qu'il y a une négligence, par exemple, ou qu'il y a abus, c'est clair que là, on a le devoir d'agir puis de s'ingérer, là. Ça, c'est certain. Il y a aussi des situations où les grands-parents, quand l'enfant a un problème de santé mentale, bon, je pense à la schizophrénie, des personnalités limites, de la violence, bon, à ce moment-là, le grand-parent a le droit et même le devoir, je dirais, de s'ingérer, de s'immiscer, de faire quelque chose. J'ai vu des grands-parents, justement, agir puis retirer, là, temporairement l'enfant tant que la situation c'était pas placé là. Donc c'est par sécurité auprès de l'enfant, c'est important. Il y a des choses, mais c'est toujours dans des situations plus extrêmes parce que sinon dans le quotidien, quand les familles vont normalement bien en tant que telles, même s'il y a des conflits, des tensions, c'est toujours mieux d'en parler. Puis si on n'est pas d'accord comme grands-parents de ce qui se passe, de comment réagissent les parents, ben peut-être prendre un temps à part quand l'enfant est couché ou qui est pas là, en tout cas, pour leur en parler. Déjà, ça va mieux passer, puis ça va pas enlever la crédibilité auprès de l'enfant, là, de ses parents.
Vous diriez quoi à un parent qui vivrait la situation de son parent, c'est-à-dire du grand-parent, le genre de reproche, « Ah, tu viens pas assez souvent avec les enfants », l'espèce de culpabilité, « Je me sens délaissée, je me sens seule, j'aimerais ça que tu viennes plus souvent ».
Le parent qui dit ça à son parent?
Oui, en fait, le grand-parent qui dit ça à son enfant parce qu'il aimerait voir davantage ses petits-enfants.
Ben, c'est sûr qu'il y a toujours la possibilité de l'exprimer. Déjà, s'il est capable de le dire, je m'ennuie, j'aimerais ça le voir plus souvent, ben c'est ça. Sauf que le parent n'est pas obligé de répondre à ça. Il y a toujours peut toujours lui envoyer le fait de que c'est possible d'appeler. Hein? Il peut appeler, il peut si les parents sont ouverts à ça, ils peuvent accorder un temps aux grands-parents pour, mettons, leur permettre de passer une fin de semaine avec les petits-enfants. Ça, c'est toujours des moments super appréciés, autant pour les grands-parents que les petits-enfants. Passer un week-end ou une nuit, c'est toujours très apprécié. Mais en même temps, c'est sûr qu'il y a des grands-parents qui en auront jamais assez, hein, de voir leurs petits-enfants qui vont en demander plus, puis c'est comprenable. Sauf que quand le grand-parent est capable de trouver d'autres intérêts que ses petits-enfants, ben déjà c'est beaucoup plus équilibré, il va être mieux là, c'est sûr. Puis les parents n'ont pas le devoir non plus de répondre à ce besoin-là ou à ce désir-là. On peut en tenir compte, je pense que c'est sain, hein, quand on est attaché à ses parents de tenir compte de leurs désirs, mais sans avoir à répondre à tous les besoins, là, évidemment.
Et pour les grands-parents qui sont éloignés de leurs petits-enfants, il y a des outils technologiques comme Skype, notamment. Est-ce que ça fonctionne bien pour garder le lien?
Oui, définitivement. Oui, il y en a plusieurs qui se donnent des rendez-vous là vraiment à fréquence régulière sur Skype pour FaceTime là par exemple, puis qui communiquent, qui se voient. Il y en a qui vont garder contact par téléphone, d'autres qui vont s'envoyer régulièrement des mots par la poste. Les enfants aiment ça recevoir du courrier encore quand même. Et d'autres fois c'est des enfants qui peuvent envoyer des dessins, des bricolages, des choses qu'ils ont fabriqué. Et puis quand le grand-parent l'a affiché dans la maison, ben puis qu'ils sont sur Skype, peuvent promener, montrer ce qui a été affiché, puis les petits enfants sont souvent très contents de revoir ce qu'ils ont fait sur le mur de grand-papa, grand-maman.
En terminant, Nathalie Parent, on entend souvent l'expression grand-papa, grand-maman, gaga. Est-ce que l'on peut trop aimer ses petits enfants?
Je pense pas qu'on puisse trop aimer. On peut toujours aimer, ça se compte pas. Par contre, c'est peut-être plus dans le comportement qu'on peut avoir qui peut ne pas être aidant ni pour le grand-parent ni pour l'enfant. Si on ne fait que donner plutôt que de valoriser la relation qu'on a avec eux, on passe à côté de peut-être quelque chose d'important.
Et d'essentiel, bien sûr.
Oui.
Nathalie Parent, je le rappelle, vous êtes psychologue, auteure de ce livre pour grands-parents seulement, chargée de cours à l'Université Laval, conférencière et formatrice. Merci beaucoup. C'était un très beau sujet que l'on a pu aborder aujourd'hui ensemble.
Merci beaucoup. Ça a été un plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Marie Charon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, diététiste et co-auteur de ce livre paru récemment chez Modus Vivendi, Super Aliments Bonheur, où l'on apprend que les aliments que l'on ingère peuvent contribuer à la chimie du bonheur. Et vous démontrez assez rapidement dans le livre, en fait, vous expliquez le rôle des neurotransmetteurs. Quels sont les rôles, justement, des neurotransmetteurs dans la chimie du bonheur?
C'est sûr que dans notre livre, ce qu'on a voulu transmettre comme message, c'est que les super aliments, ça va aider pour l'humeur, pour diminuer l'irritabilité que des fois les gens peuvent avoir. Et on voulait pas appeler le livre non plus dépression parce que il se serait peut-être pas vendu. Donc, c'est vraiment ce qui favorise le bonheur. Il y a deux neurotransmetteurs vraiment importants qu'il faut considérer. C'est la sérotonine et la dopamine. Puis la sérotonine, c'est vraiment l'hormone qu'on appelle du bonheur. Puis la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et lorsqu'on a une alimentation qui est quand même assez équilibrée, puis on va chercher des éléments qu'on va parler tout à l'heure, ça peut favoriser justement une augmentation de sérotonine ou une augmentation de dopamine. La dopamine, entre autres, peut comme favoriser des comportements plus aventuriers, ceux qui montent les montagnes et tout ça, ont vraiment besoin de beaucoup de dopamine pour vraiment favoriser ça. Et concernant la sérotonine aussi, si par exemple les gens ont un taux très bas de sérotonine, bien, il y a plus d'agressivité, d'impulsivité, d'irritabilité. Donc, c'est pour ça que d'aller chercher des aliments qui vont favoriser ces deux neurotransmetteurs-là, bien, ça va favoriser la bonne humeur, effectivement.
Dans le livre, Maryse, vous proposez également 10 consignes pour être de bonne humeur. Est-ce qu'il y en a des plus importantes à retenir?
Je dirais que les plus importants, ça serait d'éviter le plus possible, sans nécessairement toutes les éliminer, mais les aliments raffinés, les aliments qui contiennent beaucoup de sucre, les liqueurs, les pâtisseries, tout ce qui est un peu commercial, ça peut avoir un influence sur aussi notre taux de glycémie, qui est notre taux de sucre sanguin. Puis ça peut faire des variations et ça peut jouer sur notre humeur. Je dirais que celui-là, quand même, est assez important. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que dans les glucides, on retrouve aussi les éléments qu'on appelle du complexe B. Et ça, on en a besoin pour avoir de bonne humeur. Donc, c'est pour ça de choisir, je dirais, des aliments qui sont riches en complexe B, des aliments à grains entiers, pas des céréales blanches, mais plus des céréales à grains entiers, des légumineuses, il y a certains légumes comme les betteraves,
les asperges. La patate douce.
Oui, la patate douce.
L'avocat, la banane, vous voyez, je suis bien au courant maintenant que j'ai lu votre livre.
Oui, c'est bien. Puis je dirais aussi de ne pas négliger les oméga-3. Donc, les sources d'oméga-3, si possible, marines. Donc, d'aller chercher comme 2-3 portions de poisson par semaine, puis d'intégrer dans son alimentation des noix de Grenoble. C'est sûr que là, c'est des sources d'oméga-3 plus végétales. Il y a moins d'oméga-3 dedans, mais quand même, ça a un effet sur notre cerveau, les oméga-3. Il y a dormir suffisamment aussi. Là, il y a des habitudes de vie là, qui rentrent là-dedans. Mm-hmm. Donc, nous, dans notre livre, on a vraiment voulu faire les 10 consignes, pas juste au niveau alimentaire, mais regarder aussi les habitudes de vie à côté.
Donc, dormir, bouger, éviter le sucre raffiné, vous l'avez bien dit, s'hydrater régulièrement, ça, on n'y pense pas d'entrée de jeu.
Oui, parce que le fait de s'hydrater, veut pas, ça l'aide à stabiliser aussi, veut pas le taux de sucre dans notre sang. Et la déshydratation peut devenir irritant chez les personnes. Et on a constaté justement des fois un manque de concentration, des étourdissements, de la fatigue. Quand on est fatigué, on est moins patient. Mm-hmm. Donc on dit aux gens, c'est de vous hydrater le plus possible. Puis c'est s'hydrater aussi avec boire de l'eau, mais c'est aussi manger nos légumes qui a beaucoup, beaucoup d'eau aussi dans nos légumes et fruits. Là. Ouais.
Maryse, vous mettez de l'avant 10 aliments dans ce livre-là à privilégier. Est-ce qu'on pourrait en nommer quelques-uns?
Bien, je dirais qu'il y en a 20, là. Il y en a 20.
Oui, 20. Oui, ouais, c'est vrai. Il faut doubler.
Le message qu'on veut passer, c'est surtout de les intégrer dans son alimentation habituelle, de ne pas juste manger ces aliments-là, mais vraiment les intégrer. Comme par exemple les asperges, c'est surtout à cause de la teneur en folate qu'on les encourage. On s'est aperçu que les gens, comme les femmes, il y a 38% des femmes qui auraient un taux de folate moindre. Donc, ça aurait un effet sur l'humeur. Les avocats, ce que ça fait, c'est que la vitamine du groupe B encore, la B5 et la B6, qui favoriserait le tryptophan, qui est un acide aminé qui aide pour les neurotransmetteurs. Mm-hmm. Il y aurait aussi la banane. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est en forme de sourire. Donc, pour avoir un mémo technique, là, on dit aux gens, bien, pensez à ça. Vous allez, quand vous en mangez, ça peut rendre de bonne humeur parce que ça peut sécréter de la sérotonine dans notre cerveau. La betterave, ça contient quand même des phytonutriments qu'on appelle la bétaïne et l'uridine qui favorisent une sécrétion naturelle aussi de dopamine et de sérotonine. Donc, c'est une source de tryptophane. C'est très aidant aussi pour notre cerveau. Le chocolat noir, on l'a mis là-dedans parce qu'on s'est dit que c'est important de manger sainement, oui, puis il y a un plaisir à le faire, parce que vous allez voir les recettes, là, vous avez regardé les photos des recettes.
Oui.
C'est très intéressant de se dire aussi, le chocolat noir, ça fait vraiment partie de nos plaisirs et ça favorise la production de dopamine et de sérotonine. Donc, encore une fois, deux neurotransmetteurs tellement importants pour notre bien-être et notre bonheur. C'est quand même un des rares aliments là qui... tu sais qu'on peut dire qu'ils sont dans tous nos livres, qu'ils sont un petit peu plus transformés que les autres.
Oui.
Normalement, on dit que les super aliments, c'est des aliments de base, des aliments comme les légumes, les fruits. Mais si on regarde le chocolat noir, c'est quand même un aliment un petit peu plus transformé, mais aurait des effets quand même sur la bonne humeur. Tout le monde, notre corps est naturellement dirigé, on dirait, vers le chocolat lorsqu'on est un petit peu dépressif.
Et un aliment pour se gâter, justement.
Oui,
et ça, c'est important. Maryse Charron, merci beaucoup pour ce magnifique livre que l'on regarde et qui nous fait sourire d'entrée de jeu. Donc, je rappelle le titre « Super aliment bonheur ». C'est publié chez Modus Vivendi. Je rappelle, vous êtes nutritionniste, diététiste et ça a été un bonheur de vous parler, Maryse.
Ah, ça me fait plaisir. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagna à la recherche. C'était Marianne Paquette au micro qui vous donne rendez-vous dès demain, 14h. Portez-vous bien. Bye-bye.